Leur humeur fantasque me donnait beaucoup de fil à retordre. Au lieu de suivre les vaches, elles s'échappaient pour s'en aller à 2 km manger des choux-pommes. Ou bien, elles couraient sous les pommiers. Les vaches le font aussi, mais moins. Quand je m'approchais pour les détourner, elles essayaient d'avaler les pommes tout entières. Et je me rappelle avoir apporté sur mes épaules, les pattes devant mon cou, un chevreau à demi étouffé avec une pomme à la place de la glotte. J'ai fait ainsi 2 km. À l'arrivée, le chevreau râlait. Je ruisselais de sueur et de larmes et je fus accueilli plutôt fraîchement. Tu ne pouvais pas lui arracher cette pomme avec la main ? J'ai essayé, mais ça avait l'air de lui faire trop grand mal. Pauvre sot, tu aurais mieux aimé le laisser crever sans doute. Cette aventure m'a dégoûté des chèvres pour toute ma vie. Plus tard, à 14 ans, quand mes grands-parents eurent cédé la ferme, je ne gardais plus que 2 chèvres. Titine, la vieille, têtue, diabolique, et son chevreau, l'hérisson, baptisé par moi. Il la suivait partout et rarement dans la voie du bien. Mais là, j'avais pris de l'expérience, je ne le craignais plus. Je poussais même l'audace jusqu'à monter sur la vieille chèvre. La chèvre faisait 3 ou 4 fois le tour du champ à une allure vertigineuse. Je me retenais à ses cornes. Mais une fois, Titine, lassée sans doute de ses manières, après quelques tours de pré au triple galop, fila vers la maison. Son échine pointue me coupait les fesses. Et elle allait tellement vite qu'il n'y avait pas moyen de descendre. Ma grand-mère était dans la cour, à surveiller la lessive. Ce fut un beau tapage. « Grande bête, montez sur une chèvre qui est pleine, tu n'en feras donc jamais d'autre. » Il faut avouer, à ma grande honte, qu'elle l'était, en effet. Un voisin, qui avait assisté à la scène, spectateur jovial et désintéressé, s'amusait les jours suivants à me faire savonner les oreilles. Il racontait à ma grand-mère ce qui était totalement faux, que j'étais au bas de la côte de traversée avec des copains et que la chèvre était attachée à un poteau télégraphique. J'avais beau protester, on croit plus volontiers à un imbécile de 40 ans qu'à un gamin de 12. Je n'ai jamais pu monter sur l'hérisson. Dès que j'étais en selle, si je puis dire, il courait se frotter et me frotter aux arbres ou bien s'enfoncer dans les buissons au grand galop. J'étais obligé de me jeter en arrière à mes risques et périls. Ces plaisirs était rare et court, car j'écourtais autant qu'il m'était possible le temps nécessaire à une chèvre pour se remplir la panse et le bonnet. Je les conduisais dans les luzernes folles et en 20 minutes, montre en main, elle prenait l'aspect de ballon muni de pattes et de cornes. Cet imbécile, il a encore fait gonfler la chèvre, il la fera crever. La basse-cour m'intéressait peu, et les oies surtout qui, je l'ai souvent remarqué, méritent bien leur renom de bêtises. Avec mon cousin Jean, nous les réunissions et nous les poussions vers l'écurie. Elle la traversait en se dandinant. À la sortie, nous avions placé une pierre au beau milieu du seuil. Elles tombaient toutes les unes après les autres sans chercher à passer à côté. C'était là une de nos grandes joies d'enfant. J'ai aimé surtout les chats, les générations de chats qui se sont succédés dans le cellier, dans la cour et sur la maison. L'un d'eux chassait la nuit et revenait le matin tout mouillé de rosée avec des plumes d'oiseaux dans la gueule. Il passait parmi les dindons et les poules glapissantes en jetant des regards de côté silencieux et dépaysés comme de grands seigneurs chez les dames de la halle.
Bon, alors vous avez entendu derrière aussi, nous on a des bruits d'enfants pendant l'enregistrement et les grincements de porte. Bon, voilà. Désolé pour ça. Ça s'entend beaucoup mieux là que quand j'ai...
Oui, mais les cris d'enfants venaient fort à propos.
Voilà. C'est ça.
Donc là, on a écouté une nouvelle qui s'appelait « Animaux domestiques ». Et voilà. Maintenant, on va écouter une autre nouvelle qui s'appelle « Soir aux animaux ». Toujours le même thème. Mes grands-parents couchaient dans un lit vaste comme un bateau, dans un coin de l'immense cuisine. Les chats dormaient tout le jour sous ce lit et s'y retiraient discrètement lorsqu'ils avaient volé quelques morceaux qui ne leur étaient pas destinés. Ma grand-mère les dénichait en rasant les carreaux, sous le lit avec son balai lancé du bout du bras. Je les attendais à sortir et j'essayais de les attraper par la queue lorsqu'ils prenaient le virage contre le montant de la porte pour s'échapper de la cuisine. Ou bien, je les guettais avec mon pistolet à eau dans l'escalier du grenier où ils montaient 4 à 4. « As-tu fini, grande bête ?» criait ma grand-mère. Un jour, c'était le chien qui avait sauté dans la mêlée et qui, victime de son audace, nageait dans la vaisselle cassée, criant déjà de frayeur en prévision des coups. Puis il réussit à se dégager et comme ma grand-mère arrivait avec le redoutable balai, il bondit à travers la fenêtre fermée. Lorsque je revins de l'école, je crus qu'un cyclone avait dansé dans la maison. Avec les animaux, ma grand-mère était juste, mais sans faiblesse. Cependant, il la préférait à moi qui les cajolait tout le jour. J'en étais un peu jaloux. Elle ne pouvait sortir de la cour sans avoir sur les talons la chatte Fatou, noire comme du charbon. Le chien capitaine, noir aussi, avec le bout des pattes blanches, et la chèvre Titine qui broutait là en liberté les vrilles de la treille et les mouchoirs de poche mis à sécher avec la même indifférence railleuse. Ce soir-là, ma grand-mère avait mis ses lunettes d'aigle. Elle lisait le journal à demi-voix, en dodelinant de la tête au cours de sa lecture et selon son habitude, en ne tenant aucun compte de la ponctuation. Elle s'arrêtait seulement quand elle était à bout de souffle, tant au début qu'au milieu des phrases. Mon grand-père était parti tendre des collets, ses sabots de bois chauffés au coin du feu pour le retour. Le chien ronflait doucement. La chatte avait gagné, en passant par le dessus de la cheminée, le sommet de la haute pendule franc-comtoise, sa retraite favorite. De là, elle surveillait tous mes gestes, car elle avait eu à se plaindre de moi. J'étais d'ailleurs le seul à craindre. Mon grand-père puisait, si dur avec les chats des voisins qui s'aventuraient chez nous, était tout sucre et tout miel avec elle. Il la prenait sur ses genoux pendant les repas. Parfois, elle avançait la tête pour manger avec lui dans son assiette. Mon grand-père levait au-dessus de cette tête une main menaçante et la regardait avec des yeux qu'il voulait terribles. Mais la chatte faisait la câline et glissait sa tête sous la main levée pour avoir des caresses. Mon grand-père, désarmé, lui donnait un morceau de ragoût et la posait par terre. « Allons, va-t'en, tu m'agaces !» Mais elle remontait toujours. Quelquefois, sans être vue, je lui pinçais la queue. Mon grand-père, la voyant agitée de convulsions, se retournait vers moi et devinait le manège. « As-tu fini à présent, pauvre imbécile ?» Capitaine, lui, était un chien sans race et sans originalité. Il avait l'air un peu lent et endormi. Il était si paresseux que mon grand-père indigné s'écriait parfois au milieu de la cour en me prenant à témoin. « Ta chenasse, c'est le roi des inutiles !» Et puis tu le caresses, et après tu iras toucher le pain, grand cochon. Mon grand-père aimait ce chien, mais il ne voulait pas le laisser voir. Le chien suivait ma grand-mère et ma tante jusqu'à l'église, et il attendait la fin de la messe. Les autres chiens le rossaient sur place, martyrs de la fidélité. Mais il ne perdait pas un pouce de terrain. Mon grand-père trouvait ridicule d'emmener ce chien dans le bourg. D'abord, il n'a pas de collier. Il était vexé parce que ce chien ne voulait pas rester avec lui. Mais, quand il est mort, le chien est allé le voir tous les jours dans sa chambre. Il montait maladroitement les escaliers en faisant un bruit d'enfer. Arrivé là-haut, il posait sa tête sur la main du malade. Mon grand-père lui parlait. « Te voilà, mon vieux capitaine, tu ne me verras pas longtemps en vain. » Et une larme tombait sur l'oreiller. Au bout d'un moment, mon grand-père lui disait « Allons, va-t'en, ma pauvre bête, tu me fatigues. » Le chien redescendait lentement la tête basse. Je n'ai jamais retrouvé ailleurs cette familiarité, cette bonté sévère à l'égard des animaux. On n'en voulait pas dans la maison. Lorsqu'ils y entraient, c'est par une faveur suprême, ou le plus souvent, c'est qu'ils profitaient d'un moment d'inattention. Alors, le chien se tenait droit et fier au milieu de la maison. Les chats, jaloux et irrités, rentraient sous le lit. Cela finissait toujours par quelques disputes entre eux à propos d'un os de poulet, et on mettait tout le monde dehors à grand fracas. La chatte faisait ses petits chats dans les endroits chauds et douillés, sur les draps empilés dans l'armoire, ou bien sur mon lit, au beau milieu de l'édredon. J'en trouvais trois un soir en allant me coucher. On enveloppa tout ce petit monde dans un sac avec la mère. La chatte, dont la tête sortait, nous regardait avec des yeux suppliants. On les déposa sur un vieux coussin dans un coin du grenier. Lorsqu'il était assez fort, il descendait s'apprivoiser peu à peu. Alors, il prenait place dans les générations de chats de la maison. Tous semblables par le pelage, de chat en chat et de chat en chat, tous différents par leurs caprices et leurs gourmandises. Souvent même, ils héritaient des noms de ceux qui les avaient précédés. Ils se confondent déjà dans mon souvenir où je sens bien que peu à peu, les vivants tueront les morts. Mais les morts se vengent et emportent les vivants.
Voilà.
Bah voilà, des jolies.
On était en train de parler du statut des animaux dans les campagnes hein, quand on était petit. Et là, c'est étonnant le fait de renommer les animaux comme le précédent. Hein, il y a un côté.
Une génération de chats.
Il ne faut pas s'attacher trop aux animaux domestiques finalement.
Ouais. Moi, ça me fait penser que j'habitais à la campagne aussi quand j'étais petite. Et c'est vrai qu'on avait un chat tigré et on l'avait appelé chat 2 parce qu'il y avait déjà un chat tigré et donc comme c'était le même, c'était chat 2.
Ah, c'est comme dans le film Le Viager avec de Pierre Tchernia, avec Michel Serrault. Il y a Kiki 1, Kiki 2, Kiki 3.
Toujours le même épagnol.
Voilà.
Bah, comme ça, on se trompe pas.
On est tranquille.
Voilà, c'est ça. C'est comme quand on prend un amant, vaut mieux prendre un amant qui a le même nom que l'autre. Que le
Alors là, Mireille,
parce que sinon, pour pas se.
Tu es responsable de tes propos.
Donc, après la campagne française et l'Inde, voilà, on va aller dans un tout autre paysage qui est l'Italie. Et donc Denis, alors qu'il n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais donc du coup on a enregistré sa présentation de Dino Buzzati. Et ensuite on passera directement donc à la nouvelle qu'il a choisie, qui s'appelle Ubiquité.
Voilà, très bien.
Alors, on y va pour la présentation.
Dino Buzzati. Né en 1906 dans le Frioul en Italie, Dino Buzzati a fait ses débuts dans le journalisme au Corriere della Sera, pour lequel il sera correspondant de guerre lors du Second Conflit mondial. C'est avec Barnabo des Montagnes, 1933, et deux ans plus tard Le Secret du Bosco Vecchio, qu'il inaugure sa carrière littéraire. En 1940 paraît son œuvre majeure, Le désert des Tartares, qui rencontre immédiatement un succès mondial. Buzzati publie ensuite une série de contes qui comprend notamment Les Sept Messagers, 1941, L'écroulement de la Baliverna, 1954, L'image de pierre, 1960, ainsi que des nouvelles parmi lesquelles Le cas, 1966, qui demeure la plus célèbre. Buzzati avait également des talents de peintre et nous a laissé une singulière bande dessinée intitulée Poème Bulle. Il est aujourd'hui unanimement considéré comme l'un des plus grands écrivains italiens. Il s'est éteint en 1972. Je me tâte encore pour savoir si j'en parlerai ou non à mon directeur. Il vient de m'arriver une aventure fantastique et terrible. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en mon directeur, nous nous connaissons depuis tant d'années. Je sais qu'il m'aime bien, il ne me ferait jamais une méchanceté. Loin de lui l'idée de désirer ma perte, mais le journalisme est une maudite passion. Un jour ou l'autre, sans le vouloir, pour que le journal fasse belle figure, c'est sûr comme deux et deux font quatre, il me mettrait dans le pétrin. Dans mon cas, on n'est jamais trop prudent. C'est déjà un risque d'écrire ces pages dans mon journal personnel. Si jamais il tombait sous les yeux de quelqu'un et que le bruit s'en répandit, qui pourrait me sauver? Tout ça à cause d'une de mes vieilles marottes. J'ai toujours eu un faible pour la littérature noire, la magie, les histoires de fantômes, les mystères. Ma petite bibliothèque ne contient rien d'autre. Parmi les livres que je possède, il en est un, manuscrit, de plus de 200 pages, grand format, qui a au moins deux siècles. Le frontispice, comme cela arrive souvent à beaucoup de vieux livres, a été arraché. Tout le reste est une succession ininterrompue de mots de 3, 4 et 5 lettres en caractère latin cursif, absolument incompréhensible. Je prends une page par hasard. Pra, Phi, Silon, Itz, Tita, Chi, Dordor, Shiba, Spou, Spoon, Eas, Pioge, Unemo, Kai. Je l'ai déniché il y a plusieurs années chez un vieux brocanteur de Ferrare qui n'y attachait aucune importance. Un spécialiste m'expliqua que ce livre n'était autre qu'un de ces Tabulari Segreti, qui avait commencé à se répandre au XVIIe siècle. Leurs textes, à en croire les nécromanciens, étaient le fruit de révélations. Et leur secret consistait en ceci. Dans la série interminable et monotone des mots dépourvus de sens, à un certain endroit se trouve une formule magique, apparemment semblable à tout le reste. Il suffit de la lire une fois à haute voix pour être investi de facultés surhumaines, celles de prédire l'avenir par exemple, ou de déchiffrer la pensée d'autrui. La difficulté réside dans l'identification de la formule au milieu de ce chaos illimité. Vous allez penser que pour tomber juste sur les mots fatidiques, la chose la plus simple est de lire à haute voix le livre de la première à la dernière page. Même si on doit y passer des mois, de toute façon, cela en vaut la peine. Mais vous n'y êtes pas. La formule n'est valable que si, au cours de sa lecture, elle n'est pas précédée d'autres mots. Il faut en somme commencer pile par le mot juste. C'est aussi difficile que de découvrir une aiguille dans une meule de foin, étant donné les dimensions du texte. Sans parler de l'éventualité que l'aiguille n'existe peut-être même pas. Sur 100 tabulaires secrets, me dit l'expert, il y en a au moins 99 en circulation qui sont des faux. Un autre prétendait même qu'il n'y en avait plus qu'un seul au monde et que tous les autres étaient des mystifications. De plus, il se demandait si cet unique exemplaire était encore efficace, car la formule perd de son pouvoir quand on l'a utilisée une seule fois. Quoi qu'il en fût, davantage pour conjurer le sort que pour autre chose, j'avais pris l'habitude chaque soir, avant de me mettre au lit, d'ouvrir le livre au hasard et de lire, en commençant à un endroit quelconque de la page, deux lignes à haute voix. Comprenez-moi bien, ce n'est pas que j'y croyais. C'était seulement une sorte de petit rituel propitiatoire. On ne sait jamais, et puis ce n'était guère fatigant. Eh bien, le soir du 17 mai de cette année, après que j'eus lu à haute voix mon passage vespéral choisi au hasard, malheureusement je ne me souviens plus lequel parce que sur le moment je ne ressentis rien d'insolite et en conséquence je ne le notais pas. Un changement survint en moi. Je m'en aperçus quelques minutes plus tard. C'était comme une heureuse sensation de légèreté et de vivacité physique. J'en fus agréablement surpris, je ne sais pas pourquoi, mais d'habitude je suis toujours tellement fatigué. Mais de toute façon, il était tard et il ne me restait rien de mieux à faire que de me mettre au lit. Pendant que je défaisais ma cravate, je me souvins que j'avais oublié là-bas dans mon bureau le livre que je voulais lire au lit, précisément ce soir-là, « Capot m'attapant » de Ronald XVI, édité chez Garzanti. Au même moment, je me retrouvais dans mon bureau. Comment avais-je fait pour arriver jusque-là? Je sais bien que je suis étourdi de profession, mais il était absurde que je ne me souvienne pas être allé d'une pièce à l'autre, et pourtant il en était ainsi. Je ne m'en étonnais pas outre mesure, pourtant, car il m'arrive de faire une chose en pensant à une autre. Mais le phénomène se répéta dans l'immédiat sous une forme encore plus impressionnante. N'ayant pas trouvé le livre dans mon bureau, je me rappelais l'avoir oublié au journal. Au même moment, je me retrouvais au journal, rue de Solferino, 28, au deuxième étage pour être précis, dans la pièce où je travaille, qui était dans l'obscurité. J'allumais, regardais l'horloge, 9h20, étrange. Avant d'enlever ma cravate, j'avais retiré ma montre, j'avais vu l'heure, 9h18. Impossible que tout cela se soit passé dans l'intervalle de 2 minutes. Bien, mais cela ne me disait pas comment j'étais venu jusque-là. Je ne me souvenais absolument de rien. Je ne me rappelais pas être sorti de chez moi, je ne me rappelais pas avoir pris la voiture, je ne me rappelais pas le chemin suivi, je ne me rappelais pas être entré au journal. Qu'est-ce qui m'arrivait? Je sentis la sueur me couler dans le dos, des doutes horribles se glissaient en moi, une faiblesse cérébrale, ou pire encore. J'avais entendu parler de tumeurs au cerveau qui se révélaient par des symptômes de ce genre. Et puis, tout à coup, il me vint une idée absurde, ridicule, insensée, qui avait pourtant cela de bon, qu'elle excluait l'hypothèse d'une maladie, et pour cette raison, elle était plutôt rassurante. De plus, elle expliquait point par point ce qui m'était arrivé. Voici l'idée, et si je m'étais transporté instantanément de chez moi au journal par un phénomène surnaturel? Et si ce soir j'étais tombé sur la formule magique et que j'eusse acquis le don légendaire de l'ubiquité? C'était une hypothèse puérile, une idiotie. Mais pourquoi ne pas tenter une expérience tout de suite? Je pensais, je veux me retrouver chez moi. C'est très difficile d'exprimer avec des mots le sentiment de l'être à qui l'improviste passe du monde réel que nous connaissons tous dans une sphère différente et mystérieuse. Je n'étais plus un homme, j'étais quelque chose de supérieur, je possédais un immense pouvoir que personne n'avait jamais exercé. Tout à coup, effectivement, je me retrouvais chez moi. C'était bien la preuve que j'étais véritablement en mesure de me déplacer d'un endroit à un autre avec une vitesse supérieure à celle de la lumière. Et aucun obstacle ne m'arrêtait, je pouvais m'élancer d'un pays à l'autre, je pouvais m'introduire dans des endroits les plus secrets et les plus défendus, je pouvais me glisser dans les chambres fortes des banques, dans la maison des puissants d'un jour, dans l'alcôve des plus belles femmes du monde. Était-ce bien vrai? Cela me semblait impossible, je croyais rêver. Je ne réussissais pas encore à m'en persuader intimement. Je fis d'autres expériences. Je veux me trouver dans ma salle de bain, pensais-je. Et je fus dans ma salle de bain. Je veux me trouver place du Dôme. Et je m'y trouvais. Je veux me trouver à Shanghai. Et je fus à Shanghai. Il y avait une longue route avec des baraquements, de mauvaises odeurs. Le soleil allait se lever. Nom d'une pipe, me dis-je. J'en ai mis du temps pour venir jusqu'ici. Et puis, je me rappelais l'histoire des fuseaux horaires. Ici, c'était l'aube. À Milan, il n'était pas encore 10 heures du soir. Je vis dans la rue un fourmillement d'hommes et de femmes qui se hâtaient dans la même direction. Ils commençaient à me regarder d'un drôle d'air. Mon vêtement, certes, détonnait. Et puis, un petit groupe d'individus à l'air inquisiteur se dirigea vers moi. Deux d'entre eux étaient en uniforme. Je pris peur, je pensais, je veux être chez moi à Milan. Et je fus chez moi. Mon cœur battait à se rompre, mais quelle exultation triomphale! Un merveilleux avenir d'aventure, de surprise, de volupté, de succès mondiaux s'ouvrait devant moi. Je pensais à mon métier de journaliste. Enfoncer Stanley, enfoncer le vieux Luigi Barzini, enfoncer les bellinogrammes et les téléscripteurs. Un tremblement de terre au Colorado, j'étais immédiatement sur place, de l'autre côté des cordons de la police avec mon appareil photo. 10 minutes après, je suis dans la salle de rédaction à écrire mon article. Une crise au Kremlin? Tac! Je m'embusque derrière un meuble avec mon magnétophone, enregistrant la colère de Brejnev. Une scène de ménage chez Liz Taylor? Y penser suffit, et me voilà dans sa chambre à coucher, derrière un rideau avec mon appareil enregistreur. Comparé au Corriere, même le New York Times aurait fait figure de canard. Je pensais aussi à la richesse. Oui, je pouvais entrer dans les banques, dans les boutiques des bijoutiers, dans les dépôts souterrains de Fort Knox. Je pouvais emmener avec moi des milliards et des milliards. Mais je ne m'attardais pas à cette pensée. À quoi bon des milliards? Pourquoi aurais-je dû voler? Mon journal me fait un pont d'or. Mes pièces de théâtre me rapportent à elles seules chaque année des dizaines de millions. Et ma peinture, rien qu'avec mes tableaux, je peux vivre en grand seigneur. L'amour plutôt, la luxure. Aucune femme ne pourrait plus m'échapper, si méprisante fut-elle. Tiens, pourquoi ne pas en faire l'expérience immédiatement? Je pensais, je veux me trouver au lit avec A.S. Je ne révèle pas le nom, car après tout, je suis un gentilhomme. Et je m'y trouvais, parole d'honneur. Elle dormait toute seule, la chambre était dans l'obscurité, la lueur de quelques becs de gaz filtrés par les fentes des volets. C'est alors que je me rendis compte que j'étais toujours habillé de pied en cap, avec mes chaussures et tout. Dans le lit d'une belle dame avec des chaussures. Et je mesurais la folie que j'étais en train de commettre. À ce moment-là, l'adorable créature se tourna dans son sommeil et me heurta. Elle se réveilla, aperçut quelque chose et poussa un hurlement terrible. Je pensais en vitesse à la maison. Là, dans le calme des murs domestiques, je pris conscience finalement du terrible danger que je courais. Malheur si on avait appris qu'il existait un homme doué de mes prodigieuses facultés. Vous imaginez-vous la terreur des chefs d'État, des puissants, des généraux? Savoir que d'une minute à l'autre, je pouvais leur tomber sur le dos avec un poignard et qu'il n'y avait aucune défense possible. Ma vie n'aurait pas valu un centime. Eh bien, 12 jours ont passé et je n'ai pas répété l'expérience. Je continue mon habituelle vie laborieuse, mais j'ai perdu la paix de l'âme. Une pensée me tourmente. Serais-je capable de résister à la tentation d'exploiter mon pouvoir secret? Ne me ferais-je pas voir ça et là dans le monde? Ne finirais-je pas par me trahir? Même la perspective des femmes, quand j'y pense, devient invraisemblable. En admettant que celle-là, me voient apparaître devant elles, tandis qu'elles sont au lit ou dans leur bain, pourquoi devrait-elle me tomber dans les bras? Elle pourrait très bien pousser des hauts cris, appeler au secours, faire un scandale, et il ne me resterait plus qu'à décamper en vitesse. Quant au succès journalistique, il serait fatalement de courte durée. Après les premières performances à sensation, la panique se répandrait, on ferait des enquêtes. Mon apparition en n'importe quel point du globe serait immédiatement signalée. On finirait par m'identifier. Et alors, adieu Dino Buzzati. Une balle dans la nuque ou une petite dose de cyanure et on n'en entendrait plus parler. Maintenant, je me dis, d'accord, c'est très bien l'attachement au journal, l'amour du métier, le désir de réussir. Mais si j'y laisse ma peau, si j'en parlais au directeur, je le sais, il m'utiliserait avec une extrême discrétion, de façon à ne pas attirer l'attention. Mais vous savez ce que c'est, aujourd'hui un doigt, demain le bras. Si un jour, pour le bien du journal, il me demandait un travail difficile, pourrais-je être assez lâche pour me dérober? Je finirai par faire la navette entre Cap Canaveral, Oran, Moscou, Pékin et Buckingham Palace. Et à la fin, on me prendrait sur le fait. Ce qui fait que je resterai tranquille. Je ne dérangerai personne, je n'éveillerai pas les belles dans leur sommeil. Je n'espionnerai pas les grands de ce monde. Je ne fouinerai dans aucune maison. Je ferai semblant de rien. Pardonnez-moi, monsieur le directeur, mais je préfère ne pas me risquer.
Bah, il vaut mieux pas se risquer.
Bah non, c'est très philosophique.
Faire attention. Oui.
La réalisation de tous nos désirs n'est pas forcément souhaitable.
Mais bon, il peut y avoir un avantage de se dire, oh tiens, j'aimerais bien être là, et puis de s'y retrouver, mais voilà, on n'est pas forcément préparé finalement.
Enfin, exactement.
Et les autres non plus.
C'est brutal.
Bon, donc voilà, on a vu là trois univers très différents.
Très très différents. Et toi, Mireille, alors tu...
Moi j'avais préparé. Donc moi ça se passait en Irlande, mais alors là on n'a pas du tout le temps. Voilà, c'est donc on passera l'histoire une autre fois.
C'est du sacrifice.
C'est pas grave, c'est pas vraiment un sacrifice.
Surtout que la nouvelle était belle.
Oui, c'est vrai.
On l'écoutera plus tard.
Voilà, on vous fera une émission exprès sur Edna O'Brien. Donc, par contre, la prochaine fois, donc, on vous fera une émission avec des auteurs allemands. Donc, c'est vrai qu'on en fait rarement.
Oui, parce qu'on a eu des plaintes du chancelier, donc nous demandant d'équilibrer un peu.
Donc voilà, on va faire quelques auteurs allemands.
Très bien, une belle langue également.
Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a moins l'habitude, enfin moi en tout cas, c'est vrai que je lis beaucoup de littérature américaine et anglaise, mais allemande pas vraiment. Donc,
bon bah à découvrir, voilà.
Donc voilà. Et puis, on vous a concocté un nouveau petit jingle, donc j'espère que voilà, qu'il va vous plaire.
Qu'il conviendra.